de moderne pour Balzac, c'est peut-être avant tout le passage des lumières éclairantes du XVIIIe siècle qui s'expriment en 1789 à la terreur aveuglante de 1793. Et ce qui intéresse peut-être Balzac, c'est la terreur comme le moment historique d'une révolution avant tout philosophique, d'une révolution par la même transhistorique et évidemment reconductible, nous le savons. Ce qui intéresse Balzac peut-être dans le passage des lumières éclairantes à la terreur aveuglante, c'est le passage de la relation dialectique qui a pour matrice logique et qui s'exprime dans les lumières le couple universel individuel, qui consiste à subsumer deux éléments par un troisième pour permettre de penser leur union et en même temps leur distinction. C'est donc ce passage de la raison dialectique fondée sur la relation dialectique des lumières à la terreur qui intéresse Balzac, la terreur qui est la négation de cette relation dialectique. La terreur sous la forme de Méduse qui ne connaît en quelque sorte que la confusion. Quand on est devant Méduse, on est carbonisé, on est en fusion et en confusion avec elle, ou la séparation. Et par là même, ce que Balzac pointe dans son œuvre Monde qui dit le monde moderne, c'est le passage précisément de l'égalité fondée sur la relation dialectique qui suppose la prise en compte des différences naturelles et non pas leur effacement mais leur dépassement par l'égalité devant la loi. Et ce qui l'intéresse dans ce passage des Lumières à la Terreur, c'est précisément le passage de l'égalité à l'équivalence de la terreur qui rase en quelque sorte et qui arase les têtes. La terreur appartient à une logique de l'indifférenciation, met tout sur le même plan, remet en cause la valeur et n'est pas inversion des valeurs, mais abolition même de la valeur et de la hiérarchie des valeurs. Pour Balzac, en quelque sorte, les Lumières, c'est fini, et le témoin de cela, peut-être dans La Cousine Bette, c'est Crevel. Crevel qui est attaché au XVIIIe siècle, nous le savons, ô combien, mais un XVIIIe siècle qui est vu comme un XVIIIe siècle du passé, un XVIIIe siècle arriéré. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, en même temps que Crevel passe de vie à trépas, il termine justement sa vie sur ce bon mot du passage de Montesquieu. Montesquieu, justement, est passé. Et Crevel est attaché à un XVIIIe siècle qui est passé par la terreur, par Méduse qui est pétrifiée. N'oublions pas que le XVIIIe siècle de Crevel, comme par hasard, est présenté comme un XVIIIe siècle de carton pierre. Donc à partir de ce point nodal de l'œuvre Monde disant le monde moderne et cette révolution philosophique que j'esquisse, le premier axe de notre réflexion a été de vouloir inscrire le discours des passions de Balzac dans La Cousine Bette et peut-être au-delà, dans une tradition, et notamment dans une tradition, celle du XVIIIe siècle, mais d'un XVIIIe siècle qui n'est peut-être plus possible. À cause de cette terreur que j'évoquais, et on le remarquera que le roman, qui pourtant se situe sous la monarchie de Juillet, affirme dès le début, 1830 a consommé 1793. Cela n'a rien d'étonnant, car dans tout le discours d'opposition de l'époque, un discours d'opposition dont le discours de Balzac participe, Louis-Philippe, l'homme de 1830, ne l'oublions pas, est considéré comme lié à la terreur, non pas par une politique répressive, mais tout simplement parce qu'il est le fils de Louis-Philippe, de Figuier Égalité, qui a voté, on le sait bien, la décapitation du roi. Le roman affirme cela dès son début, et à la toute fin, il est habité, nous le savons, par cette face de Madame de Saint-Estève, une face de terreur. Le terme apparaît très net. Donc le discours des passions chez Balzac est à inscrire, d'abord en un premier temps, en effet, dans le discours des passions du XVIIIe siècle, mais qui va subir une révolution. Un discours des passions du XVIIIe siècle qui fait que la passion, et vous avez évidemment étudié tout cela, n'est plus pensée comme une force que l'on subit, mais plutôt comme une force qui agit. que la passion est liée à une énergétique, et l'on a tous en tête le livre de Michel Delon précisément sur l'édit d'énergie, évidemment, au tournant des lumières. Une énergétique qui est au cœur du système balzacien. La passion, en effet, pour Balzac, est l'expression de la pensée, et la pensée, la manifestation de cette énergie, conçue comme un fluide vital. Et c'est bien pourquoi Balzac, pour définir la passion et l'ensemble des passions, utilise la métaphore du moteur social que l'on trouve au début, évidemment, et dans le prologue de La fille aux yeux d'or, avec le Paris des passions qui est vu comme un bateau à vapeur et comme un pyroscaphe. Et Balzac, en quelque sorte, situe dans l'architecture de la comédie humaine, c'est-à-dire dans le troisième étage, les études analytiques, précisément cette énergétique au fait de son système, une énergétique qui fonde ce qu'il veut écrire, une histoire des mœurs du XIXe siècle, mais une histoire des mœurs du XIXe siècle en action. Et si Balzac est un auteur pour des élèves scientifiques, c'est parce qu'il donne, vous le voyez, pour fondement à sa métaphysique des mœurs, une physique des forces, et qu'il voulait couronner son œuvre précisément par un essai sur les forces humaines. Mais précisément, ce courant dans lequel s'inscrit Balzac, et donc sa conception de la passion procède, ce courant du XVIIIe siècle subit, avec cette révolution philosophique de la terreur, un coup en quelque sorte fatal. On passe, et Balzac le sait bien, donc de cette relation dialectique avec ce troisième cercle qui se subsume deux autres, on passe donc du méta, en quelque sorte, avec la terreur qui indifférencie tout, au plat. Et dès lors, nous sommes amenés, et ça sera une deuxième direction de notre réflexion aujourd'hui, à montrer comment la philosophie balzacienne des passions, qui est donc une physiologie et une énergétique, est aussi à penser comme une politique des passions et comme une nouvelle économie politique des passions, et fait signe dès lors, en effet, avec la pensée anglo-saxonne, celle d'Adam Smith, bien entendu, celle aussi, évidemment, nous pensons à Hume et Adam Smith, et à cette des sentiments moraux. En effet, véritablement, dans ce monde moderne de la terreur, où il n'y a plus de méta, mais du plat, où le méta disparaît, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe. Et c'est ce qu'énonce l'homme moderne par excellence dans la comédie humaine, bien évidemment, Vautrin, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe. Il n'y a que des circonstances éminemment mobiles, mobilité des passions, et on pense à Hume, qu'il faudra interroger, évidemment, interroger. Et donc, dans cette perspective, les passions sont le lieu, véritablement pour Balzac, d'une société pensée comme étant fondée sur une autorégulation entre passion publique et passion privée, et aussi autorégulation entre vice et vertu, dans un système clos, dans un système circulaire, et dont la confrérie des cinq pères de l'église Marnef pourrait très bien n'être la manifestation privilégiée. Et cette économie politique des passions qui met en jeu une autorégulation et non plus une opposition entre public et privé, vice et vertu, peut éclairer certains aspects des passions de la cousine bête, la cousine elle-même, en personne. On sait, je n'y reviens pas, ça a été abondamment étudié, le lien consubstantiel de Bête avec l'araignée, et il y a eu beaucoup d'écrits, très bien écrits sur ce point. Je voudrais simplement souligner que ce lien privilégié de la cousine Bête avec l'araignée montre le passage précisément d'un monde de la relation dialectique à un monde de la toile d'araignée, c'est-à-dire du réseau. Le passage de la relation à la connexion dans une vision horizontale des choses, bien liée à cette terreur méduse qui est indifférente. Et fondamentalement, l'on passe de la relation qui relie et libère à la connexion et au réseau qui ligote et enceinte, Et celui qui a particulièrement bien saisi cela, c'est un grand lecteur de Balzac, c'est Baudelaire. Baudelaire qui a bien compris que le mal moderne n'était pas la mélancolie fondée sur la dialectique du haut et du bas, mais l'ennui. L'ennui précisément qui dans Au lecteur indifférencie tout et lié à la terreur, il rêve d'échafaud, souvenez-vous, en fumant son hookah véritablement. Et l'ennui qui est vu évidemment dans ce poème Spleen, mais qui ne renvoie pas justement à la mélancolie mais beaucoup plus à l'ennui, comme ce qui tisse notre cerveau d'une toile d'araignée et d'une toile d'araignée prison. Et dans cette perspective, nous pouvons comprendre combien la cousine bête est liée à la logique de la terreur et elle peut être la figure de la terreur, cette révolution philosophique. Si la cousine bête se définit par une passion, c'est bien la passion de l'envie. L'envie, l'invidia, celle qui joue sur un plein qui est un vide, qui est toujours affamé, qui est pleine de vide, qui est à la fois avide, si je puis dire, et avide. Et précisément, ce qui caractérise la cousine bête, c'est qu'elle est présentée comme une passionnée avide, véritablement. Et c'est là son lien très étroit avec Vautrin. Non, peut-être pas tant, parce que elle veut créer, en effet, un homme, une littérature de Vautrin, que parce qu'elle, précisément, dévore sa propre substance, et surtout parce que comme Vautrin, qui n'arrive à s'incarner que dans une chose, que dans reste, que dans rien, Vautrin vaut rien, elle n'arrive pas, dans tous les sens du terme, à faire un homme. Et si j'insiste sur le lien entre la cousine bête et l'envie, et lié à la logique de la terreur, c'est que nous savons bien que dans toute une tradition iconographique, l'envie est précisément la figure de Méduse, et vraiment la figure de la terreur. C'est aussi dans ce lien de la cousine bête avec ce moment philosophique de la terreur que peut s'éclairer son appétence pour cette passion qui est évidemment au cœur de la cousine bête, cet altruisme bien entendu, c'est-à-dire la vengeance, que l'on peut considérer dans certaines perspectives, et une vengeance notamment liée au temps, mais Eugène Bordery nous en parlera sûrement. La vengeance, en effet, est ce qui délaie le temps, mais aussi ce qui abolit le temps. Et c'est là où on sait bien toute sa différence avec la justice. La justice connaît la prescription, la vengeance ne la connaît pas, ne connaît que la prescription. Et c'est en ce sens que la vengeance aurait fort à voir avec cette temporalité précisément caractéristique de la terreur et de Méduse, c'est-à-dire l'instance, la mort, comme dit si bien Daniel Arras, la mort en un clin d'œil. Et l'instance, précisément, qui peut se définir comme étant l'actualité, qui est à la fois détachée du passé et du présent. L'actualité qui est coupée, en quelque sorte, de tout et qui est la pure présence. Et qui fait peut-être, et qui éclaire peut-être un aspect de la cousine bête, c'est-à-dire l'impossible idée de génération, l'impossible idée de filiation. La parabole du fils prodigue devient la parabole du père prodigue, qui est à la fois d'une certaine façon, comme le dira Baudelaire, père et fils de lui-même. Et la cousine bête est bien le drame de l'impossible création, peut-être, et de l'impossible engendrement. Daniel Dupuy nous en parlera peut-être. Et ce n'est peut-être pas pour rien que, et c'est rappelé dans l'édition de Sylvain Léda, que la vengeance, évidemment, qui ne date pas du 19e siècle, mais une certaine représentation de la vengeance, soit une passion romantique par excellence de 1830, liée précisément à cette conscience, chez Hugo, chez bien d'autres, de cette révolution philosophique de la terre. Dès lors, et liée à cet aspect, Bête apparaît, me semble-t-il, comme le lieu de la conversion caractéristique du monde moderne, de la sauvagerie qui est de l'ordre de la préhistoire, qui est de l'ordre pour Balzac de l'énergie concentrée, le passage de la sauvagerie à la barbarie, du côté de la fin de l'histoire, du côté d'une énergie non pas concentrée, mais d'une énergie sur le mode de l'envie précisément, qui tourne à vide, la barbarie qui est l'expression des sociétés expirantes. Et ce n'est pas un hasard, peut-être, si bête peur de phtisie pulmonaire. cette notion de barbarie me conduit à une troisième articulation liée aux deux précédents, c'est-à-dire le passage non plus d'une philosophie, physiologie des passions à une politique des passions et à une nouvelle économie politique des passions, mais à une poétique et une esthétique des passions. La grande difficulté de ce programme, et ça je ne me permettrai évidemment pas de le dire parce que vous ne cessez sûrement d'affronter cette question, c'est qu'il est évident que la nature de la représentation joue sur la conception, la définition même de la passion. La passion dans un traité, ce n'est pas la passion dans une pièce de théâtre, ce n'est pas la passion dans un roman, alors que Balzac aurait pu utiliser le traité et était tenté dès le début, justement, par l'écriture du traité. Or, ce terme de barbarie et ce terme de barbare a affaire avec une catégorie, vous connaissez bien dans une banderie, la catégorie du bizarre. La catégorie du bizarre qui, avant d'être une catégorie d'ordre éthique et d'ordre esthétique, appartient au monde psychique. Le bizarre, et c'est pour ça que ça peut avoir affaire avec le barbare, c'est l'expression d'une humeur fantale, d'une humeur brutale en quelque sorte, et c'est lié d'ailleurs très souvent à la gente masculine, je ne sais pas pourquoi, du côté de la barbe et le barbare et le bizarre, curieusement, dans une certaine conception du bizarre. Mais surtout, cela introduit dans le texte une esthétique qui éclaire cette métaphore si connue, évidemment, et le surnom de la cousine bête, la chèvre. Le bizarre lié au barbare introduit une esthétique, en effet, de la ligne brisée, du caprice et de la fantaisie. Et le personnage où se fait ce passage d'une politique des passions à une poétique des passions autour du caprice et de la fantaisie, c'est Valérie Marlèff. Puisqu'il est dit en effet à son propos, et l'on part du domaine politique, que l'arbitraire est la démence du pouvoir. Et l'on passe précisément à Valérie Marlèff, la femme, pour la femme et chez la femme, l'arbitraire, c'est la fantaisie. Mais lié à cette esthétique du caprice et de la ligne brisée, et qui procède précisément de cette révolution philosophique de la terreur et de la différenciation, du passage du méta au plat, apparaît une esthétique déceptive. Une esthétique déceptive dans la cousine bête, qui fait que l'on ne peut pas avoir un sublime du haut. Ce sublime du haut, on l'attend chez Adeline. Or, Adeline meurt sur un reproche. Ce sublime du haut, lui, est refusé. L'on attend le sublime du bas, la grandeur, en quelque sorte, du mal, que l'on pourrait avoir chez Valérie Marlèff ou Marlèff. On ne l'a pas. On n'a que le sinistre du plat, véritablement. Et ce qui apparaît très nettement, ce sinistre du plat, dans une dimension évidemment esthétique et poétique de la cousine bête, qui est le rire bien présent. Et comment le penser? Ce rire, il apparaît tout particulièrement, avant, à la toute fin du roman, et c'est un rire justement qui a affaire avec le sinistre du plat, qui est le rire de la terreur moderne. C'est le rire de ce que l'on appelle au XIXe siècle, et qui s'inscrit dans la langue seulement au XIXe siècle, le rire de la blague, qui n'a rien à voir avec la blague à toto et l'exception actuelle, la blague qui, sur le modèle de la blague à tabac, et cette plaisanterie trompeuse qui trompe non pas à cause d'un jeu mensonge-vérité, donc d'une vérité qui cache quelque chose, mais du jeu plein vide. La blague, c'est un puff qui fait paf, et elle est donc fondamentalement déceptive. Et la blague, c'est celle que l'on trouve autour, précisément, d'Atala. Ce n'est pas pour rien qu'elle est liée au fumiste, et à la fumisterie. Or, le fumiste, évidemment, pense à la cheminée, est lié au fumator, bien entendu latin, et à la définition même du blagueur. C'est-à-dire celui, non pas qui cache une présence inavouable, mais qui exhibe, en quelque sorte, une absence inaltérable, qui crée quelque chose à partir de rien. Dès lors, l'on est donc dans ce sinistre du plat. L'on n'est pas dans une esthétique du plein, mais donc du gonflé, en quelque sorte. Et dès lors, nous voyons que cette esthétique, et cela est rattaché à ce que je disais au départ de cette révolution philosophique de la terreur, nous fait passer du théologique et de l'éthique au physiologique, nous fait passer du salutaire au sanitaire, nous fait passer du sublime de l'Éden, qui pourrait apparaître dans ce texte, au sinistre de l'Éden, si je puis dire, dont le personnage de Fauvel et surtout le personnage de Valérie Marneffe est véritablement l'emblème. Et en dernier lieu, dans le prolongement de cette esthétique et du sinistre du plat lié à cette révolution philosophique, se met en place dans la cuisine d'être une poétique très particulière, une poétique que j'appellerais la poétique du virus, la poétique virale. Une poétique virale qui, comme l'a bien souligné Baudrillard dans un très beau texte qui s'appelle « Chirurgie esthétique de l'altérité », le virus qui est la maladie des systèmes clos, circulaires, de l'enfermement précisément dans le même et de l'indifférenciation. Poétique du virus fondée sur la réduplication du même, qui est au cœur de la cuisine d'air. La cousine Bette se veut le jumeau du roman Le Cousin Pose. Mais dans la cousine Bette, nous avons bien entendu ce phénomène de contamination de la vengeance, mais qui est moins de l'ordre thématique que de l'ordre du poétique. Là où nous sommes dans la poétique, c'est qu'alors que la cousine Bette paraît en feuilleton, et Christelle Coulot nous en parlera, on a affaire à un roman qui ne progresse que pas peut-être linéairement, mais bien à un roman en série fondé sur cette réduplication du même, et même un roman boucle, en quelque sorte. On part de Josépha et on finit sur Agathe. Surtout, l'on part de la cousine Bette, grisette, ouvrière en passement de tri, et ça se termine sur une Agathe, piquetard, précisément. Et cela passe par aussi ce qui relève de la même logique, cette fameuse déraison sociale de tulle et bijoux, comme par hasard, maison de broderie. Déraison sociale, folie en effet, parce que lorsque l'on passe de la dialectique des lumières, qui permet la conception du semblable, de l'autrui, du même et du différent, à la révolution de la terreur, qui est l'enfermement dans l'indifférenciation et dans le même et dans le similaire, l'enfermement dans le même oblige à constituer l'autre, non plus comme autrui, mais comme le tout autre, comme le fou ou comme le monstre, en quelque sorte. Et qui fait peut-être que la cousine Bette est ce roman du monde des passions par un peintre de la vie et du monde moderne, un roman dont Flaubert se souviendra, c'est-à-dire un roman monstre, précisément, passionnément bête, assurément.